Vous êtes bien sur les 103.5 de Radio Circa et tout de suite au premier étage du cirque et en direct sur Radio Circa, les rencontres du public avec les artistes animées par Kiki Lucas.
Bien, donc c'est de plus en plus familier. Alors, bonjour, bienvenue à ces deuxièmes rencontres. On est un peu moins nombreux qu'hier. Il va falloir un petit peu rétablir la chose. Je vais falloir faire de la com. Il faut qu'on fasse un peu de com sur ces moments-là. Alors, aujourd'hui, donc, nous accueillons aujourd'hui Roman pour la compagnie Trespace et pour le spectacle Arbeit. Nous allons accueillir aussi la compagnie Barreau d'Evel pour le spectacle Mazout, qui ne sont pas encore là. Et nous devions accueillir Nikolaos, mais apparemment il a un petit souci parce qu'il doit démonter. Il vient de finir son spectacle, là, et il doit démonter. C'est pour ça qu'on est en retard, parce qu'on en sort, mais voilà. Donc je ne sais pas s'il va pouvoir venir, peut-être au dernier moment. Voilà, alors on va profiter de ce que Roman est là pour commencer avec lui. Qui a vu ce spectacle, Arbeit ? Vous, personne d'autre n'a vu le spectacle. Ah, voilà. Parce que c'est avant tout, je rappelle la règle du jeu, c'est avant tout une rencontre publique-artiste. Alors, Roman, Trespace. Alors, est-ce que tu peux raconter un peu la compagnie ? Parce que c'est une compagnie, c'est le deuxième spectacle de la compagnie ?
La compagnie Trespace, oui. Disons, deuxième, oui, sous cette forme.
C'est-à-dire, non, mais ça veut dire la compagnie, c'est son deuxième spectacle ou
le troisième.
D'accord.
Après, c'est un mélange avec une autre compagnie, le précédent.
D'accord. Vous étiez combien sur le dernier spectacle ?
Sur le dernier, on était 5 artistes, 6
oui,
chevaux et 3 musiciens.
6 chevaux ?
Oui.
Mais j'en ai vu un autre, moi, l'année dernière, il n'y avait pas 6 chevaux.
Alors, t'as vu lequel ?
Je ne sais plus comment ça s'appelait, je ne me rappelle plus du titre.
Installation, c'était... t'as vu où ?
Ici.
Ah, ça, c'était le cercle. Il y a trois ans.
C'est ça, il y a trois ans. Ouais. D'accord. Et là, vous étiez combien ?
On était 3.
Mais 3 jongleurs ?
Un musicien et 2 jongleurs.
Voilà, 2 jongleurs et un musicien.
Contrebassiste.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, tu as fait le choix d'être le seul jongleur. C'est-à-dire que, en gros, c'est toi qui occupes l'espace. Il y a une musicienne et il y a, on va appeler ça un régisseur de plateau, même s'il a une fonction, c'est-à-dire qu'il manipule des machines, mais tu es le seul jongleur dans l'espace.
Oui.
Voilà, d'accord. Alors, si vous voulez poser des questions, pour ceux qui l'ont vu, si vous avez des curiosités... Alors j'enchaîne, néanmoins. Donc avant tout, tu fais du diabolo, c'est un peu ta spécialité. C'est ça, et là tu les as un peu retravaillés autrement, tu les as décomposés, tu les as découpés, tu les as fait tourner avec des mécanismes. Ça c'est nouveau ça.
Oui, c'est une approche... Bon, d'une part c'est pas si nouveau, il y a quand même déjà dans le cercle aussi toutes... cette recherche autour le diabolo, en fait. Qu'est-ce qui est possible avec cet objet que ça a commencé. C'est une évolution qui est là déjà depuis longtemps. Ça a commencé avec juste casser le plan frontal que ça a toujours. Et assez vite, ça partait aussi dans les choses mécaniques, soit même de l'objet. Et là, les premières idées avec les machines, c'était d'une part, il y a le fait qu'on ne voit pas que le diabolo, ça tourne, que ça tourne. C'est juste, ça tourne horizontalement sur le doigt, on ne s'aperçoit pas comme spectateur non plus. Alors, il y avait toute une recherche autour de ce moment qu'on essaye... Normalement, de cacher, c'est la chose qui est juste utile qu'on doit faire, c'est accélérer cet objet que ça tourne. Mais ça, c'est un truc que normalement, on essaye de cacher. Et pour rendre visible que cet objet tourne, j'ai commencé à construire des machines comme le vélo, par exemple, pour agrandir ce mouvement, pour juste rendre ça, ça visible. Et de l'autre part, c'est un geste quand même assez fatigant. Si on fait depuis 20 ans du diabolo, juste le fait de l'accélérer. Je me suis construit, par exemple, machine à coudre et tout ça, ça, fur et à mesure, ça m'a lancé en fait sur cette thématique du travail, en fait.
Il y a une petite influence de Tinguely, un peu, là, pour un Suisse.
Je sais pas trop.
on dirait, c'est des machines, un peu, les matériaux, les assemblages et tout, ils sont assez proches de Tinguely, le fait qu'il y ait des petits moteurs, des choses comme ça. Parce qu'on voit, par exemple, on vient de voir Nicolaos, là, il a travaillé aussi avec des enchaînements, mais là, c'est la force même de la balle qui crée le mouvement. Alors que là, ce sont des petits moteurs.
D'un part, il y a des moteurs. Mais...
Tu as dit quoi?
D'un part, il y a des moteurs, mais pas juste.
D'accord.
C'est, par exemple, la première machine,
ouais,
avec les balles de golf.
Ouais.
Et il faut dire, le spectacle est très nouveau. On a joué 8 fois et là, on aurait de nouveau un temps de retravailler. Et ça, c'est un truc que je me suis, par exemple, aperçu qu'on ne comprend pas que ce mobilet qui est accroché au début, si c'est en équilibre, ça a un certain poids.
Oui.
Et c'est ce poids-là qui anime l'autre machine.
D'accord, ça on ne le voit pas du tout, ouais, je
oui.
confirme.
Oui.
D'accord, parce qu'il faut dire aussi que là, c'est un peu les premières. Donc, ils ont encore une période de résidence là, à venir. Dans 2 mois, hein, c'est ça ouais. que tu me disais. Donc on est vraiment, et donc c'est même le bon moment pour ceux qui l'ont vu, si vous pouvez faire des retours. Hein. Mais non, mais c'est clair parce que ça n'a pas été très facile non plus, c'est ce que tu me disais, quoi. C'était pas très simple non plus. Il y avait une tension, quoi.
Oui.
Voilà. Non, mais c'est un enjeu terrible parce qu'on est dans un festival difficile et pour tous les artistes, il y a une tension incroyable. Et ce qui fait que parfois, on peut passer un peu à côté des choses qu'on recherche. Il manque parfois un peu de légèreté ou de souffle ou de respiration pour pouvoir donner tout ce qu'on voudrait donner. Parce que, et dans le cadre d'une première, c'est démultiplié de surcroît. Hein. Et néanmoins, je trouve, et c'est ce qui m'a même étonné, que sur la piste, ou le plateau, parce qu'on est sur un semi-piste plateau, hein, c'est créé pour le frontal ce que tu fais là, manifestement.
Oui.
Hein, c'est ça. Et là, on est sur un semi-circulaire. Mais néanmoins, j'ai trouvé que chez toi, alors c'est ce que tu affiches, c'est ce qu'on croit vivre avec toi, il y a une désinvolture.
Désinvolture.
Alors, je m'explique, c'est-à-dire que tu te balades avec un petit sourire, un petit relâchement, sauf les moments où tu travailles avec ton diabolo, évidemment, où il y a forcément la tension du jeu avec l'objet. Mais la plupart du temps, quand tu te balades, il y a un petit détachement. Enfin, j'ai l'impression que c'est un choix où je sais pas, je me dis, tiens, il est très à l'aise. Et il y a des moments, par exemple, qui sont un peu difficiles, avec des temps un petit peu longs. Et j'ai l'impression que tu c'est comme si tu nous disais acceptons ce temps-là. Et il y a même un moment pour finir, pour donner une illustration, tu finis même à un moment donné par mâcher un chewing-gum.
Non, c'est concombre.
Ah, c'est un concombre.
Bon,
tu vois,
après,
c'est ce que
après,
je te disais, oui. Il y a un petit problème d'éclairage. Je crois que c'était un chewing-gum.
Bon,
enfin, néanmoins, tu m'as choisi un concombre.
Comme un chewing-gum. Alors, je retourne un peu plus en arrière sur comment c'est arrivé, en fait, avec toutes les choses mécaniques.
Ouais.
Et quand je commençais à construire, en fait, juste pour me soulager, pour répéter, pour agrandir ce mouvement que ça tourne. Et avec les premières machines que j'ai construites, ça m'a lancé, en fait, assez vite sur ces pistes thématiques de travail, du travail corporel, qui, dans la société d'aujourd'hui, n'a plus vraiment valeur, le travail corporel de l'homme. Mais par exemple, dans le cirque, ou la danse, ou quelque chose comme ça, le travail corporel a vraiment une valeur où le public vient pour, comment on dit, une estimation. Après un moment, je me suis aperçu que je commence comme à suivre l'évolution du travail de l'homme. D'abord, comme jongleur, je fais tout moi-même. Et si je commence à me faire des petites machines pour, par exemple, accélérer le diabolo, je rentre dans des mots comme spécialisation, division de travail, que quelqu'un autre me fait une partie de mon mouvement, je me sers de quelqu'un. Oh, si les demi-diabolos, je ne veux pas les ramasser, c'est le technicien qui... C'est pour moi, par exemple, vraiment le moment de délocalisation aussi. Alors, la question de base, c'était... Hein,
non, c'était cette détachement. Désinvolture, ce détachement. Ouais.
Alors, en poussant ça, ça va jusqu'à l'automatisation de mouvement de jongleur, là où ça tourne. Alors, t'es aussi, naturellement, t'es plus impliqué dans la chose. Il faut assez... Après, c'était aussi une espèce de moteur intérieur d'être feignant. Comment se trouver
des
astuces
pour... C'est la robotique qui va sauver le jongleur.
Bon, si ça le sauve, après, ça, c'est la question. Le mouvement est là,
mais... Les jongleurs
ne
sont plus jamais angoissés, et la robotique va les sauver.
Mais aussi pas, ça peut bien tomber.
Alors, moi, j'ai pas... Bon, moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir, mais je n'ai pas du tout perçu ce rapport à Arbeit, au travail. Pas du tout. Il y avait une sorte de... Comment dire, de goût pour la machinerie, pour... pour la fantaisie, pour une certaine délicatesse, tu vois. Par exemple, alors j'imagine que c'est dans une volonté de paradoxe de mettre en place comme ça une pianiste dans un petit coin, une très bonne pianiste d'ailleurs, mais tu vois, ça m'évoque pas, je suis pas du tout dans le monde du travail d'un instant où il y a une petite pianiste. Enfin, moi j'ai pas perçu, j'ai rien lu, tu vois, avant de voir le spectacle, et j'ai pas du tout eu cette sensation qu'on m'évoquait le travail. J'ai vraiment vu autre chose, quoi. Le monde du travail, parce que en venant tout à l'heure, je regardais vite fait ta petite fiche, et effectivement c'est Arbeit, pourquoi ? Parce que je me suis posé la question après quand je suis sorti, mais j'ai pas senti ça du tout. Entre ta désinvolture, la qualité des machines, tu vois, il n'y a rien de brutal dans ces machines, et puis la pianiste dans le fond, j'ai pas eu...
Bon, après, il y a toujours aussi cette étape, le point de départ du projet.
Oui.
Et vers où,
et où on arrive, ça, je suis bien d'accord.
Ça t'amène et dans combien tu veux être explicatif, oui, sur la thématique, ou combien tu la transposes.
Oui, bien sûr. Bien évidemment.
On est quand même bien parti sur la transformation juste dans l'action de cette thématique. Et ça, c'est pour moi aussi un point qui est clair, que ce n'est pas facilement lisible. Il y a des gens qui le captent tout de suite, ou qui le captent très bien, ce sens. Et d'autres, moi, ce lien qui, pour moi, est très présent. Après, ça, c'est pour nous aussi maintenant de décider ce fil, combien il doit être compréhensible au plus au niveau des sensations, en fait. D'accord. Après, il y a aussi un piège qui est dans la construction. Le contraste, par exemple, entre ce moment où il y a les trois diabolos qui tournent sur la machine, qui est vraiment le geste automatisé, où il y a l'autre moment où c'est cette partie où le diabolo, ça joue à l'horizontale et ça devient de plus en plus, ça devient très physique, très corporel. Et là, par exemple, la chose à l'intérieur de ça, c'est si deux humains travaillent ensemble, on ne travaille pas sur la même chose, la musicienne est avec le piano, moi avec mes objets. Mais pour moi, ça crée, ça peut créer vraiment un ensemble, l'écoute sur l'autre. On n'a pas un intermédiaire d'une machine ou d'une aide ou quelque chose comme ça, ça dépend juste de nous. Et la beauté et la joie aussi de se lancer vraiment dans ce corporalité de ça. Et au contraste avec l'autre extrême, la machine qui fait le mouvement tout seul. Et comment ça se décompose vers là. Et après, là, il y a un danger avec ça. Dans la décomposition, le français de temps en temps, c'est pas évident. Que ça devient un truc lourd, pesant. Et pour moi, ça, quand ça s'est arrivé un peu, les représentations ici, on cherche plus la légèreté aussi là-dedans, mais sans dans un jeu théâtral. C'est un peu difficile à expliquer comme ça.
Est-ce que vous voulez faire des retours pour ceux qui l'ont vu, oui?
Oui, d'abord, bravo pour le spectacle. C'était un bon moment. Merci. Vous parlez de travail, moi je dirais plutôt parler de production. La question de la production humaine ou de la production mécanique ou électromécanique. Et je me posais la question s'il y avait une volonté un peu de dénoncer, on va dire, le système d'une production normalisée par rapport à une production qui est plutôt liée à une dimension aléatoire de l'intervention de l'homme.
C'est quoi la dernière partie?
La production aléatoire, une production qui a des fragilités. Quand on est jongleur, on a inévitablement à un moment donné des moments qui sont des moments qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Alors que la machine maîtrise son fonctionnement de façon systématique.
Bon, déjà sur scène, on a aussi bien rencontré le contraire, ça te pose plein de soucis.
Oui.
Une réflexion assez à la base du projet, c'était aussi pour retomber sur le phénomène de travail. Aujourd'hui, bon, ça, c'est déjà depuis un petit moment comme ça, en fait, on taxe sur le travail de l'humain. Toutes les charges et tout ça, ça fait que le travail de l'homme devient cher. Et sur les ressources et les énergies, il n'y a presque rien. De temps en temps, c'est même subventionné. Et ça crée normalement aussi qu'on essaye d'éliminer, en fait, le coût de facteurs de travail humain. Et ça, c'était quand même aussi une réflexion. Ça, qu'est-ce qui se passe si on transpose ça, en fait, dans le spectacle, où c'est vraiment dépendant de l'homme? Si tout d'un coup, ça commence à... On est de moins en moins impliqué, ça rejoint peut-être un peu que tu as décrit avec le mot désinvolte. Ça nous éloigne aussi de ça. Après, on a choisi aussi, on ne donne pas une réponse de notre attitude à ça. Mais de ce point de vue-là, il y a ce regard critique. D'une part, les machines, c'est aussi un peu l'homme. Toujours avoir la curiosité d'essayer des choses, comme se construire des machines comme ça, c'est un grand plaisir. Mais si on la pousse plus loin, en fait, on arrive toujours aussi à un point où jusqu'où on veut aller avec des choses comme ça. Après, pour moi, ça c'est un peu symboliquement dans le spectacle avec le mobilier qui est au début là, ce truc. Pour le moment, on ne comprend pas que c'est cette ressource-là, le poids qui anime la machine. Et une fois on est plus tard dans le spectacle libéré de la tâche de jongler, et on retombe, on commence à construire tout simplement avec des petits cheveux. de nouveau cette structure et vers où ça va? Est-ce qu'on retombe toujours dans les mêmes boucles, dans les mêmes mécanismes? C'est comme dans les questions dans la science, vers jusqu'où on cherche. Il y a toujours une bonne côté ou une côté aussi que ça peut avoir des résultats pas bons.
Mais en même temps, je me pose la question de la dimension artistique, parce que vous parliez de Tinguely. Les machines qui sont faites par Tinguely sont aussi des machines qui ne servent pas à grand-chose, mais elles servent à créer une poésie. Et vos machines sont aussi des machines avec une dimension poétique. Donc, je ne sais pas si, du coup, pour vous, est-ce que l'homme qui invente la machine reste quand même un artiste, ou est-il dominé lui-même par la machine, parce qu'à un moment donné, vous n'êtes plus en situation où vous fabriquez, c'est les machines qui font. Mais c'est quand même vous qui avez fabriqué les machines. Voilà, c'est un peu...
Oui, c'est un peu c'est aller-retour.
C'est ce qui est un peu troublant, quoi.
Mais ça, on trouve avec plein de choses d'aujourd'hui. Historiquement, quand les premières machines à coudre, en fait, étaient présentées dans une manufacture en Angleterre où il y avait des femmes qui ont cousu à la main, ça crée une révolte parce qu'ils ne voulaient pas la machine. Et il y a aussi le côté génial au artistique de l'invention de cet objet, de refaire ce mouvement qui fait le fil, ça c'était aussi assez beau en fait, de prendre des vieux machines et vraiment les regarder. Comment on comprend en fait comment les choses marchent, on peut le toucher et voir comment un mouvement se fait.
C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que tes machines sont belles. C'est comme chez Tinguely, il célèbre la machine. Il la transforme, il joue avec, mais c'est des belles machines. C'est déjà une époque, on n'est pas sur des blocs avec des ordinateurs, des choses qui n'ont presque plus d'apparence. Là déjà, il y a des lignes, il y a des forces, tes machines sont déjà des vieilles machines. Tu évoques les premières machines à coudre, et on est dans ces registres, c'est-à-dire qu'il y a une certaine beauté de la machine. Elle ne nous effraie pas. Elles sont déjà de l'époque, même je dirais comme chez Tinguely, où elles nous racontent qu'on va être délivré du travail pénible. Alors effectivement, après, on perd son corps. Il n'y a plus de corps. Je sais que c'est un des problèmes des mimes. Ils ne peuvent plus travailler. Avant, ils travaillaient sur les artisans, les charpentiers, choses comme ça. Les mimes, ça n'existe plus, le mime, aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus de gestes à reproduire. Le geste de l'ouvrier a disparu. De l'artisan, ça a été remplacé par l'industrie. Plus que jamais aujourd'hui. Du coup, tu célèbres. Là, tu célèbres la machine.
Bon, je suis pas sûr si je célèbre.
Avec tout le plaisir que tu as mis à les construire, hein, comme tu disais justement, à les fabriquer, elles sont belles. On veut les voir marcher, on veut les voir tourner. C'est forain. C'est forain.
En même temps, juste regarder trois pauvres diablos qui tournent sur une assiette, ça fait le mouvement de baguette, c'est...
C'est quoi ?
C'est pas énormément beau. Peut-être. Okay.
Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, tu le laisses longtemps pour qu'on puisse se dire c'est pas suffisamment beau.
Ça fait du briquet chiant, par exemple.
Ouais. Oui, non, c'est clair.
Après, on a été un peu pour soulager le bruit avec le petit piano qui filait.
Tu vois, t'en as rajouté. Tu vois, c'est pas tout à fait assez beau, donc on t'a rajouté un petit truc qui fait que ça prend son charme.
Pour cacher.
Est-ce que parmi ceux qui ont vu le spectacle Arbeit, vous voulez simplement dire quelque chose ? Oui ?
Oui, bonjour. Moi, je l'ai vu après avoir vu Secret. Donc je me posais la question, et quand j'ai vu parmi les spectateurs, il y avait aussi Joanne Le Guilherme ce soir-là, et je me suis posé la question justement du rapport qu'il pourrait y avoir ou pas avec le travail qu'a développé Joanne Le Guilherme sur justement le rapport à l'objet, à sa présence sur scène. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a à un moment influencé ou que vous avez choisi de développer autrement ou pas du tout peut-être voilà, ou quelque chose qui est juste dans l'air en ce moment de... Là, on sort de Niklaus, c'est aussi qui nous fait aussi des systèmes d'action-réaction. Et il y a peut-être quelque chose comme ça dans l'air en ce moment dans le cirque.
Bon, je vais avoir le plaisir de voir la première fois Joanne Le Guilherme. J'ai encore jamais vu.
C'est une maladie de jongleur. C'est assez fréquent, hein. Les machineries. Je crois que c'est ça, hein. Se débarrasser de l'angoisse. On construit des trucs pour s'en débarrasser. Et en réalité, on s'en rajoute.
Oui. Oui.
C'est rigolo de voir. Moi, j'ai pas vu votre travail, mais j'ai vu Niklaus. C'est étonnant de voir qu'après, les jongleurs, vous avez toujours un peu une longueur d'avance sur les autres. Vous avez disséqué votre rapport au bas, à la chute et tout. Maintenant, vous disséquez vos moteurs d'inspiration. Donc, chez Niklaus, c'est des moteurs, on va dire... presque psychologique, de névrose, et vous disséquez des éléments moteurs de façon mécanique. Voilà. Donc ouais, j'ai bien envie d'aller voir votre boulot.
Bien. Et bien on va peut-être en rester là. Ah oui, ok.
J'aimerais connaître la place que vous... laisser à la musique, enfin au piano, et peut-être la pianiste, je ne sais pas, par rapport à toute cette évolution que vous avez avec... est-ce qu'il y a opposition? Est-ce qu'il y a complémentarité? Est-ce que... voilà.
La place, la musique.
Oui, enfin... du piano, de la pianiste.
Comme on est après dans le spectacle, il y a souvent aussi la musique fait partie, comme la technique fait partie. On a aussi envie de mettre ça déjà tout à vue. Alors ça veut dire aussi pas avoir de bon son, par exemple. Et pour moi, qu'est-ce que j'aime vraiment bien aussi, c'est le contraste, la musique du piano, la musique classique, avec cet univers mécanique qui... le côté sonore de tout ça, dans le spectacle, je trouve super important. Comme par exemple le bruit de cette machine qui commence à passer sur le piano, des choses comme ça. Après, c'est le piano, c'est quelque chose que j'ai jamais pensé en fait. Le piano à queue, parce que c'est quand même une sacrée contrainte, parce que c'est un objet qui est grand, qui est imposant, et on est assis devant le, assis sur le siège, et on peut pas bouger dans l'espace avec ça. Et c'était un peu plus par hasard qu'on se rencontrait, où j'ai testé en fait les premières fois des choses avec des machines. Mais il y a quelque chose qui collait juste pour moi là-dedans. Après peut-être il y a encore des choses dans la forme du rapport qu'on va encore un peu développer là-dedans.
Et en ce qui concerne les équilibres, vous commencez par un équilibre de...
Oui, de palmier.
De palmier, oui. Et vous finissez par cet équilibre. Donc j'imagine que ça a un sens.
Euh, Au début, mais bon, là, comme je disais, ça, on ne comprend pas pour le moment le lien avec cette mobilée qui a une certaine fois juste si les branches sont en équilibre. Alors, si c'est en équilibre, ça, cette ressource, ça, peut, ça anime une machine. Et si cet équilibre, les ressources, ça commence à... Il n'y a plus la force pour animer la machine. C'est un peu ça. Et à la fin... qu'est-ce que j'aime bien, par exemple, un point là-dedans? Avec les machines, il y a tellement de mouvements ou des choses qui ne sont pas directes au geste. On fait un geste, ça fait quelque chose de différent. Et de juste prendre ces tiges et les mettre en équilibre, c'est un jeu qu'on peut juste commencer à mettre quelque chose en équilibre. Et on comprend tout de suite qu'est-ce qui se passe et on comprend tout de suite l'enjeu. C'est pour moi vraiment un peu le contraste aussi de ce monde mécanisé où on n'est plus vraiment le maître des choses.
Est-ce que quelqu'un voulait intervenir aussi tout à l'heure? Oui. Quelqu'un voulait intervenir tout à l'heure? Bon. De toute façon, on va enchaîner parce que ils sont là. Donc, ben voilà. Le Arbeit, le corps de l'artisan, le seul espace du corps de l'artisan, le chapiteau. Merci, Roman. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci d'être venu.
Alors, oh bah viens Camille, donc on a maintenant Camille et Blaye du spectacle de la compagnie Barreau des Velles pour le spectacle Mazout. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Ok, il y a beaucoup de monde, bien. Est-ce que vous voulez introduire? Est-ce que vous leur posez des questions? Alors donc, je vais commencer. Je voudrais dire juste une chose. C'est la vertu du spectacle, de certains spectacles. J'étais très tendu, très mal sur ces deux premiers jours de Circa. Et puis j'ai été les voir et puis il y a une vertu thérapeutique qui s'est mise en place. Je suis sorti mais d'un calme invraisemblable, extrêmement bien. Et ils peuvent le constater, parce qu'après j'allais à la radio, ça m'emmerdait, j'avais une heure à la radio et j'étais très 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 bien. Et ça perdure jusque là, ça commence, je vais repasser, vous jouez encore, parce que ça commence à se défaire là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a quasi une situation théâtrale pour commencer, on va dire ça, comme un scénario. Hein, on a, ça se passe, on a déjà un petit intermède un peu particulier. On a un des personnages qui est là, qui bosse, hein, on parlait de travail tout à l'heure, il bosse, il fait sécher ses sérigraphies. On ne sait pas vraiment que c'est des sérigraphies en tant que public, hein, mais il fait sécher des trucs, il les met en place. Et puis à un moment donné, néanmoins, il met une tête de cheval, il se transforme un peu en cheval. Et puis voilà, ça c'est un petit intermède, mais sa collègue arrive, hein, on va dire que c'est sa subalterne, on va dire, hein, c'est ça. Elle arrive, on ne sait pas tout de leur histoire, mais on sent déjà qu'il y a entre eux une relation un peu particulière. Et cette relation un peu particulière, elle va se raconter non pas sur un mode narratif ou psychologique, mais elle va se raconter par des images, par des chants, par des cris, par des bouleversements soudains, par un fantastique. Et c'est en ça particulièrement qu'il y a une réelle dimension poétique, parce que c'est ce fantastique, pour moi, qui raconte le quotidien. C'est-à-dire que c'est le principe même du spectacle, c'est-à-dire comment raconter cette partie de notre quotidien qui est faite à 80% de rêves éveillés et de choses qui nous échappent. Et je trouve que c'est absolument réussi. Voilà. Je trouve que je suis subjugué, quoi. Voilà, voilà. C'est évident, quoi. C'est. Alors, est-ce que parmi les gens qui sont là, parce que je sais que ça pose des problèmes. Je sais que pour beaucoup, ça pose des problèmes. Et donc, ça serait plus simple pour moi d'avoir eu des problèmes. Est-ce qu'il y en a qui, qui ont eu des problèmes ou qui voudraient, comme moi, dire simplement ça? Parce que c'est aussi un peu les débuts du spectacle, je pense. Hein, on est dans les débuts. C'est la huitième. Ben, voilà. Hein, voilà. C'est les huitièmes. C'est la journée des huitièmes. Alors, est-ce que vous voulez leur faire un petit retour, ceux qui l'ont vu? Ou une question, oui?
Bonsoir. J'ai pas le temps. Déjà, bravo. Et moi, j'ai juste une question, en fait. Pourquoi le cheval? Enfin, qu'est-ce qui... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il vient faire là?
Alors...
On souhaitait chercher l'animalité, la question de l'animalité. Mais finalement, la question de l'animalité dans notre travail, elle vient aussi parce qu'on travaille aussi avec des chevaux. Donc, dans notre parcours, dans notre travail au quotidien, on travaille avec des chevaux. Et c'est aussi un questionnement au sein de la compagnie et comme quelque chose qui nous obsède un peu sur la question de l'animalité. Voilà. Donc c'est lui qui est... Voilà.
Oui, j'avais une question sur ce qui a déclenché un petit peu ce travail. Ben, moi, ça m'a évoqué les romans de Fuentes, qui est un auteur mexicain, qui part comme ça sur des choses assez quotidiennes, et puis tout d'un coup, on se retrouve... complètement dans le fantastique, enfin dans un univers complètement différent, et on glisse comme ça du quotidien, mais on dirait presque naturellement, en fait, du quotidien à la quatrième dimension. Enfin, on se retrouve complètement ailleurs, et puis on revient dans le quotidien, et alors que tout ça semble absolument naturel. Et j'ai retrouvé un peu cette atmosphère dans votre travail, et je me demandais qu'est-ce qui vous nourrit pour ce type de création.
Il y a plusieurs questions là, je crois. Qu'est-ce qui nous nourrit pour faire une création comme ça? Oui, après, plein des images, des films, des rencontres, des moments. Enfin, ce qui nous nourrit, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on traverse. Après, comment on est arrivé à ces endroits de changement, de passer du quotidien ou du rapport d'ici maintenant à de l'onirisme, à de la... c'est le travail, en fait, c'est notre travail. On est arrivé à cette histoire de travail parce qu'on se rend compte avec les années que le fait de créer, c'est notre travail à nous, quoi. Et du coup, ça nous a permis aussi, dans un premier temps, de changer nos rapports qui, étant un homme et une femme, vont toujours vers la notion de couple qui se raconte malgré tout. Donc on avait envie de partir un peu d'ailleurs, d'essayer de mettre un peu de distance dans les rapports. Du coup, cette espèce de hiérarchie qu'il y a au départ, et après c'était en travaillant, en fait, en cherchant, en improvisation, que le fait de passer de l'un à l'autre, ça arrivait en travaillant. Et du coup, on l'a gardé, enfin on l'a pris le parti pris, quoi.
En fait, comme on travaille par plusieurs strates, donc il y a le choix du rapport à la musique, il y a le choix des gouttes, il y a le choix de la transformation, il y a le choix du monde de l'entreprise, juste pour se décaler, pour se dire on va se décaler, on va se vouvoyer, on va changer notre rapport. Et tous ces choix-là de départ, petit à petit, s'imbriquent et rentrent les uns dans les autres. Mais les basses,
Oui, c'est les basses.
Et après, finalement, c'était cette espèce de jeu où nous, on ne cesse d'être obsédés à créer du spectaculaire tout en partant de notre réel. Et on est parti de ça, en fait. Tout simplement.
Bonsoir. Vous mélangez beaucoup d'arts, notamment théâtre, cirque, chant, musique. Du coup, je me demandais, est-ce que vous avez collaboré avec d'autres artistes, notamment, je pense peut-être à des plasticiens, pour peut-être pas pour créer, enfin, pour les idées, en fait, pour la mise en place des idées. Je ne sais pas si vous avez compris ma question.
Alors oui, il y a toute une équipe, il y a une grosse équipe derrière ce spectacle. On a travaillé avec des chorégraphes, un graphiste peintre, Benoît Bonne-Maison-Fitte. Les chorégraphes, c'est la compagnie de danse Malpelo, des Espagnols. Après, à la lumière, au son, Fanny Tolo et Adèle Crébinet. Bon, tout le monde a... C'était un gros bastion, hein, une grosse recherche de tout le monde, en fait. Hein. Il y a eu un gros travail d'équipe. Et après, c'était pas une question d'idées. C'est-à-dire que y a des choix d'espace, comme je viens de le dire, sur le système des gouttes, l'idée que l'eau va se transformer en peinture, l'idée qu'on va chercher à se transformer, à transformer l'espace comme transformer les corps, comme transformer le rapport. Donc des règles comme ça. Mais les idées, c'est plutôt, on a brassé de la peinture, par exemple, puis en voulant transformer les corps, mais finalement, très vite, la peinture, juste en s'en mettant partout, on tombait dans des trucs qui nous dépassaient un peu. On a fait tout un parcours pour s'apercevoir qu'on n'avait plus besoin que de deux gouttes, mais il nous fallait finalement transformer l'espace sur la fin. Enfin, chaque endroit a demandé, dans l'immersion, du travail, à le simplifier petit à petit, mais... On a une idée, à la fin on va faire un mur. Ça, on l'a découvert pendant qu'on allait faire un mur et que voilà.
Moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que c'est pas, il y a pas une somme de tout ça, c'est pas la somme de tout ça qui fait, enfin si, c'est la somme de tout ça qui fait le spectacle, mais c'est pas il y a de la danse puis du théâtre et aussi ça, mais c'est la cohérence de tout ça qui fait que à un moment donné. Enfin, je ne suis pas en train de me dire, tiens, là, ils font des portées de cirque, et tiens, là, il y a un moment burlesque. Ça se balade comme ça entre tragique et burlesque, mais voilà, c'est la difficulté, elle est là. Alors, moi, il y a une petite chose que j'aimerais savoir par curiosité, parce que ça m'est arrivé quelquefois de travailler avec des gouttes à gouttes, et là, la présence des gouttes à gouttes comme un refrain... à l'intérieur du spectacle, beaucoup plus que comme un refrain, quelque chose qui dramatise de plus en plus le spectacle. Mais comment c'est possible une telle maîtrise ? Parce que moi, ça n'a jamais été ça. C'est-à-dire qu'on envoyait les gouttes à gouttes, et puis ça arrive beaucoup plus tard. Hein. Après, on n'a jamais le rythme qu'on veut, et puis on les arrête, ça continue. Et là, ils sont extrêmement maîtrisés.
Bah, c'est avec le temps. On est là...
Non mais j'en ai pris aussi du temps, mais...
Non mais on est passé par là, par le goutte à goutte de l'hôpital, par le système de goutte à goutte d'arrosage, par tout ça, des inondations, tout ça. Et en fait, finalement, on s'est fait aider par un programmateur qui travaille en fait avec la passation mécanique électronique. Qui, enfin, on lui a expliqué notre envie, puis du coup, lui, il s'est renseigné et on est tombé sur des petits moteurs de péridurale. En fait, c'est des moteurs qui servent à faire ces trucs d'hôpital. Donc, du coup, tu peux régler la grosseur de la route et l'intensité. Enfin, c'est une pompe qui fait arriver la goutte. Après, ce qui a été plus complexe, disons qu'on a bâti la symphonie. Nous, quoi, on a fait des caisses qui sont pour pas qu'on entende le bruit du moteur qui tourne, puis après il faut les charger tous les soirs. Enfin, il y a un gros travail de mise dans le spectacle entre le mur, les gouttes, la peinture, tout ça. Il y a un peu, disons que maintenant on passe un peu moins de temps à faire des portées et un peu plus de temps à faire du papier, quoi.
Non, mais c'est là où se porte aussi l'exigence du spectacle. Hein. C'est vraiment là où à chaque endroit il y a cette exigence là et. Et est-ce que le sonorisateur a travaillé avec ces petits goutte à goutte de péridurale là ?
Ah bah on a tous travaillé, enfin...
Ensemble, en permanence ?
Non, en fait, ça s'est passé. Enfin, ça se passait dans les moments de travail. Et après, on a fait des chantiers de construction où c'était vraiment de la construction. Et après, il y a eu des allers-retours parce qu'en fait, il y a le moteur qui passe dans une boîte d'électronique, qui envoie le signal vers l'ordinateur. Et après, il y avait le programme de l'ordinateur à faire. Bon, enfin, c'est tout dans. Ça passe par live, le programme de musique, mais qui est avec Max MXP, qui est un autre programme d'ordinateur qui te permet de faire le lien et que ça soit à travers l'ordinateur que tu maîtrises les gouttes, quoi. Enfin, c'est très simple maintenant, une fois que c'est mis en place, mais c'était un peu complexe le fait de le faire arriver. Maintenant, on peut avoir un clavier qui joue de la goutte, quoi.
Intéressant pour des cabarets à venir.
Non, y a moyen de faire des installs, en tout cas, et des trucs. Oui, oui. Ça n'est qu'un début.
Je me demandais, physiquement, c'est pas trop éprouvant ce spectacle ?
Disons que il y a moins de techniques de cirque qu'on pouvait en faire il y a quelques années et il est autant éprouvant qu'avant. Mais non, il est plus éprouvant émotionnellement. Il va chercher ailleurs, quoi. Voilà. Il est plus éprouvant au niveau du souffle, hein, au niveau de la colonne d'air. Il faut aller chercher assez loin. Mais ce jeu en fait de rupture, ce jeu où on peut rompre tout à coup avec le tragique ou aller au bout du tragique pour qu'on arrive vers la tendresse ou aller au bout de la tendresse pour qu'on arrive à la colère. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est amusé en rentrant dans les états. Pour une première fois, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, à comprendre qu'en fait, quand on va à un endroit du bout, on ne se fatigue pas parce qu'on va trouver la suite, en fait. Et que du coup, le corps, si on ne cache pas, en fait, le corps, il peut reprendre son souffle tout en jouant, en fait.
On se rend compte qu'aujourd'hui, le cirque, comme d'autres formes de spectacle, sont dans un rapport avec les nouvelles technologies qui viennent s'inscrire un peu dans l'écriture dramatique ou dramaturgique du spectacle. Et je me disais, sur votre travail, est-ce qu'il y a au départ un architecte, un penseur du projet, ou est-ce que ce sont les complicités artistiques qui sont celles de différents domaines qui se regroupent pour travailler le projet un peu en work in progress, ou est-ce qu'il y a une volonté de raconter dans une démarche dramaturgique le spectacle?
Donc en fait, on fonctionne par ce que je disais tout à l'heure. Blaye et moi, on conçoit... on propose un enjeu d'espace, un enjeu de mise en place de rapport au son, de gouttes, de peinture, de transformation, tout ce que je disais sur les thèmes. Et après, de toute façon, on s'entoure de gens avec qui sont OK pour venir chercher avec nous, dont les savoir-faire sont proches de toutes ces choses-là. Donc, on à la limite, on répond, on comprend vraiment ce que l'on cherche. Pendant et on répond à la question après peut-être 50 dates, 60 dates. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout le temps... On s'évite de répondre, en fait. Tant qu'on répond pas, on cherche, quoi. Mais après, ça fait un peu mystique, là.
Non, mais en tout cas, il n'y a pas une dramaturgie qui est écrite. On va dire, bon, on va faire ça, du coup, on va mettre ça en place pour pouvoir faire ça. Sinon qu'on met des choses en jeu et on cherche avec. Et les gens qui viennent dans l'équipe de création font partie, rentrent dans le bac à sable, quoi, rentrent proposer avec nous. Mais et après, au bout d'un moment, c'est nous qui aiguisons le chemin, quoi. Enfin, le chemin, ou en tout cas la direction qu'on prend.
Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a vraiment un moment donné où il y a des moments charnières dans la création où il faut faire des choix, où on décide sur quoi on se raccroche pour écrire, sur quoi on base la rythmique, sur quoi. Et donc ça, on prend ce rôle-là.
Mais au-delà des images,
Au-delà des images, parce qu'elles sont, impressionnantes, toutes ces images, elles sont... C'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu dans, dans une toile symboliste avec énormément de moments qui nous racontent des choses. Donc chacun, en tant que spectateur, on peut se raconter une histoire. Mais vous, ou en tout cas, je ne sais pas s'il y a un metteur en scène ou s'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, est-ce que vous axez aussi les images sur des choix que vous définissez ou ce sont les images qui vous racontent votre histoire ?
C'est un lâcher-prise dans le travail qui fait naître les images. Et c'est après qu'on voit ce que l'on a donné et comment on décide de l'organiser ou de ce qu'on en garde ou ce qu'on utilise. Donc c'est dans
ce
le...
Ce qu'on en fait avec, quoi. C'est une fois que ça arrive et que ça prend un sens, que du coup, on s'amuse à mélanger les sens des plusieurs choses qui arrivent et à mélanger. Mais ça... Bon, parce qu'en plus, il y a une partie des choses avec le travail physique qu'on a déjà, qu'on connaît déjà ce que ça raconte. Après, c'est qu'on on vient influencer par de la matière, ça raconte autre chose. Et puis, si en plus, on remet quelque chose d'autre, ça raconte encore autre chose. Et on n'arrête pas de faire et défaire pour raconter, redéraconter. Et puis, au bout d'un moment, ça s'impose par le fait de refaire des traits. Ben, y a une espèce de choses qui commencent à se construire. Puis, dès qu'on a un point d'appui, on s'accroche, et puis on essaye de ne pas le tenir jusqu'à qu'il tombe, puis il y en a un autre. Du coup, enfin, c'est une espèce de truc comme ça, ouais, d'enchaînement, et puis les choses se mettent en place petit à petit, en ayant la conscience de ce qui se passe et de machin, mais en même temps, en laissant surgir ce qu'on ne connaît pas, qui est souvent plus intéressant que ce qu'on a prémédité, quoi.
Mais après, il y a aussi des choses très concrètes où, à un moment donné, on part sur le papier. Donc, on a aussi des règles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre un papier, on s'aperçoit qu'on est en train de rentrer la règle, que c'est du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Donc là, on dit, OK, on part sur cette règle-là parce qu'on est souvent là-dedans. Du coup, parce qu'on était dans des grands thèmes après, conscients du départ de parler du vide et du plein et de l'ordre et du désordre. Ça, c'était formulé. Après, tu pars sur les objets. Tu dis, bah, finalement, alors si on parle de ça, on en a un, puis on en a 1000, ou on en a 0. Comment on les vire d'un coup ? Comment on les... Voilà, c'est des règles. Et après, concrètement, on passe des heures avec notre papier, machin, on essaie, voilà, il faut transformer l'espace. Voilà, donc après, ça devient très concret sur plein de choses. Dans le côté circassien, justement. Parce que c'est de la manipulation, c'est ne pas vouloir cacher la technique aussi. C'était un vrai souhait. Ça devait pouvoir devenir magique, même si on voit comment on tire, on voit d'où ça vient, on voit...
Mais c'est en ça que je trouve que c'est vraiment un travail poétique, parce que c'est vraiment la recherche des mots, des images qui, entre elles, sonnent et résonnent. Et c'est en ça que ça n'a rien d'un collage par rapport à ce que tu disais, tu vois, pour moi, de quelque chose où il y a telle discipline, telle chose, telle chose, telle chose. Il n'y a pas de discours du tout à l'intérieur de ça. Simplement, il y a des éléments qui, entre eux, construisent quelque chose de beaucoup plus grand. Si on a la sensibilité à ça. Et ça correspond à tout le travail de la poésie depuis 60-70 ans. Mais en même temps, c'est un travail qui commence un peu à disparaître. Et de nouveau, comme je l'avais dit l'année dernière, ou je ne sais plus, il y a 2 ans, il y a un risque aujourd'hui à rentrer dans ce genre de travail. Et alors, je sais que ça vous avait un peu choqué, mais je le redis aujourd'hui, il y a un risque parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus rejeté. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais et moi, j'ai été nourri de ça. Et quand on voit ce spectacle, on pourrait même s'amuser à essayer d'analyser toutes les références dont souvent vous n'avez peut-être même pas conscience, mais qu'on peut retrouver dans l'histoire de la poésie, l'histoire de l'art, de Cocteau à Picasso, à Michaud, à beaucoup de choses, tout ce qui a fait la poésie depuis même le 19e, on va dire. Et je trouve qu'il y a cette même matière, là, alors que c'est très moderne, très nouveau aussi, très actuel, très contemporain. Mais plus ça va, plus je sens que dans le monde du spectacle vivant, on devient un peu frileux avec ce genre de choses, parce que se pose la question qui ne se posait pas avant dans le public du « mais pourquoi ?», du raisonnable « mais pourquoi ?».
C'est quoi la question ?
Moi, c'est même pas une question, moi, c'est une affirmation, là.
Je suis d'accord.
Non, la question, c'était, est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que je me rappelle, ça vous avait choqué la première fois, j'avais dit qu'il y a un risque de la poésie, mais c'est de ça dont je parlais la dernière fois, et je trouve qu'encore là, vous prenez un grand risque, au-delà de tous les risques circassiens, le plus grand risque, il est là, dans ce que vous faites.
Mais c'est plutôt bien, ça.
Ah, mais c'est très, très bien. Bon. C'est très, très bien.
Non, mais il faut prendre des risques, non ?
Oui, absolument, bon. Absolument.
Eh ben, on n'est pas choqué ce soir.
Ah, voilà, ça a mûri.
Choqué.
Mais disons que c'est vrai que, par exemple, plein de gens peuvent venir nous parler de ce spectacle en ayant vu, des références ou des choses dont on n'est pas complètement inconscient, mais dont on n'est pas complètement conscient non plus. Mais c'est bien là la chose donnée. C'est-à-dire qu'en fait, il est laissé au spectateur le grand plaisir de s'en faire ce qu'il veut. Et nous, à nous de tâcher de prendre plaisir aussi à l'intérieur de cette partition. Voilà.
Ça marche. Moi je me suis complètement laissée prendre et j'ai l'impression que c'est parce que tout était hyper fragile qu'il y a ça tient à des rythmes incertains. Enfin, il y a du papier, il y a même un chien, il y a des gouttes d'eau. Et même dans votre interprétation, j'ai l'impression que vous aussi vous vous laissez prendre par ce que vous faites et que vous vous laissez toucher, quoi. Et du coup, comme ça tient à plein de petites choses incertaines, je me demande comment vous faites pour pas être terrifié, quoi, qu'à un moment vous vous laissiez plus prendre parce que vous faisiez sur le moment, ou que je sais pas, qu'il y a un... enfin voilà.
Bah oui, c'est vrai que particulièrement à Circa, c'est vrai qu'on est assez proche de la terreur quand on se retrouve dans des situations que vous connaissez avec tous les professionnels et tout, et qu'on sait qu'on vient défendre ça. Oui, on a eu peur, quoi. Mais justement, ce spectacle, on n'a pas le droit, si on a peur, on n'a pas le droit de le cacher. C'est juste ça. C'est que faut faire avec ce qui vient, voilà. Mais bon, comme plein de spectacles, comme plein de...
Disons que là, c'est... c'est la sixième création, du coup... On a l'impression de rebondir, puis de mettre les enjeux un peu autre part. Avant, on sort de voir This Is The End, là, de Chalon, non ? Et ça m'a fait penser forcément à les spectacles de Chalon quand t'es sorti à la Tribuyota, et qu'on sentait que les moments, justement, où t'es sur la bascule, c'est des moments où t'as cette fragilité-là que nous, maintenant, on met dans les moments d'échange qui ne se passe rien, enfin, ou qui ne se passe... rien de dangereux physique, mais en même temps dangereusement émotionnel, je sais pas comment. Et c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Avant, on stressait pour faire un salto, maintenant on stresse pour dire attendez. Juste pour être, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc. Et ça, c'est vachement trippant. C'est vachement. Ça booste, quoi. Ça booste de trouver une chose qu'en plus tu sais que tu pourras la faire toute ta vie, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc où on commence à jouer un jeu que tu as l'impression que c'est de longue haleine pour le coup. Quand le cirque, il y a toujours un truc où tu te dis oula, mais je vais me blesser, ou je vais me faire mal, ou je vais pas tenir, ou je vais. Et que là, il y a une espèce de chemin à long terme qui s'ouvre et qui est vachement agréable parce que ça. Voilà, tout ce qu'on a fait nous a nourris pour faire venir là, et on espère aller encore ailleurs. Et c'est ça qui est excitant, plus que le résultat final, finalement, de ce spectacle, qui est encore un pas pour aller ailleurs, et qu'on espère va être encore un pas pour aller ailleurs, quoi.
Mais je me dis, pour réussir à avoir peur comme ça, il faut avoir un truc super solide, enfin... tirer il y a un appui quelque part, enfin, et du coup c'est quoi?
Mais c'est notre écriture qui est solide aussi, rythmiquement c'est très solide, c'est à dire que enfin mais on a tendance à souvent on se bétonne, dans le sens on sait sur quoi on s'appuie, par le rythme et par notre sens du rythme commun, c'est à dire que il y a des moments où on va laisser un espace différent chaque soir, mais parce que le rythme est différent ce soir-là. Et puis après, il y a toute cette orchestration, et puis toute cette transformation de plateau, et puis donc il y a quand même plein de choses qui existent aussi en dehors de nous.
Ça va avec la confiance, en fait, avec les gens qu'on a travaillé, notamment les danseurs et le dessinateur, nous ont amené beaucoup de confiance pour pouvoir se mettre dans ce danger, quoi. Enfin, un peu d'essayer de se dire, vas-y, mais oui, vas-y. Et ça te donne confiance. Et du coup, tu y crois. Et du coup, c'est ton appui, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc où ça joue à ça. Et c'est vrai que quand on te pousse et qu'on t'aide, c'est hyper agréable.
C'était surtout qu'on se redisait tous les jours, il n'était pas question qu'on se dise, bah non, on ne va pas parler parce qu'on n'est pas comédien, ou on ne va pas faire de la peinture parce qu'on n'est pas peintre, ou on ne va pas faire des rites parce qu'on n'est pas percussionniste. Il était comme, on guettait tous ces endroits de sursaut, de attention, tu seras jugé là-dessus, tu vois. Et donc, heureusement, comme il y avait une belle équipe, ça a vraiment été, à un moment donné, c'est parti très loin. Et du coup, on a vraiment pu rentrer dans le travail, en fait.
Trop loin,
non. Pas loin, non, ouais.
On voyait toujours l'horizon, quoi.
Non, mais il n'y avait plus... Quand tu penses... Ouais, c'est vrai, putain, je me la joue, là. On est fatigué.
Entre 4 et 5 mois, mais c'est difficile à jauger parce que ça a été des périodes entre l'ancien spectacle qu'on répétait, puis les gouttes se sont faites pas dans un temps de résidence. Après, enfin, c'est comme. Mais le temps vraiment de résidence avec des salles, on va dire, ça a été entre 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois, 4 mois et demi, quoi.
Oui, moi, c'était par rapport à Chalon et votre formation. Donc, on a vu aussi la dernière promotion. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous, depuis la tribu Iota, et cette formation qui vous a amené là, qu'est-ce que vous retrouvez ou qu'est-ce qui vous a aidé dans la formation, plus particulièrement à faire votre chemin et à devenir ce que vous êtes maintenant Voilà.
Bon, moi j'ai l'impression que j'ai tout appris dans cette école dans l'idée du mélange, dans l'idée de s'entourer, dans l'idée de travail des croisements, dans l'idée de s'immerger. Mais après, ça a été aussi beaucoup la rencontre dans les premiers spectacles, les gens dont on s'est entouré, qui avaient de l'expérience de mise en scène, qui avaient de l'expérience. Et on a beaucoup appris à côté de ces gens-là. Donc, il y a eu Michel Sardat, il y a eu Sébastien Lalanne, après il y a eu Virginie Baez. Enfin, chaque création, forcément, amène avec des gens et leur regard et leur manière de faire. Et donc, on a appris petit à petit à leur côté, en fait, en plus de ces 5 ans d'école.
Allô ? C'est une certaine rigueur, je pense. Il y a quelque chose que l'école, c'est là où on a appris aussi à bosser d'une façon concrète, je ne sais pas comment dire, d'y retourner, puis retourner, puis te retourner. La première fois qu'on l'a fait vraiment, c'est les années de l'école, quoi. Des super rencontres qui t'amènent dans une certaine rigueur, je crois.
Le chien qui est sur scène, du coup, enfin moi il m'a un peu énervé. Du coup, je voulais savoir pourquoi ce chien sur scène.
Hier ?
Oui.
Elle était énervante, moi aussi, elle était énervée. Hier.
Du coup, pourquoi avoir ce choix-là ?
Moi j'ai vu avant-hier, elle était très bien. Elle était somnambulique. Elle était parfaite.
Bon, dans l'idée d'un animal qui regarde des humains par moments devenir des animaux, et dans l'idée de quelque chose d'incontrôlable qui est là et qui fait ce qu'il veut, donc qui improvise tout le temps, et dans ce côté aussi absurde du regard du chien. qui tend, enfin, ça retend des scènes, ça peut donner. Mais ça dépend. Ce soir-là, elle était vraiment trop présente.
Et du coup, ça nous ramène toujours à quelque chose de concret. Alors que, enfin,
voilà.
Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant de. En fait, on était avec vous, et d'un coup, il y avait le chien. Du coup, on se disait, ah ben en fait, je suis là, je suis pour un spectacle.
Et il y a un chien.
Et
voilà, bah c'est ça.
Oui, je sais.
Mais en fait, c'est parce qu'aussi, c'est notre chien qui est toujours là en répétition. Et puis, voilà, ça fait partie de ces genres de choses comme on travaille. Après, au début, il devait y avoir le cheval qui apparaît derrière le mur. Et ça devenait complètement énorme, un peu fou, parce que techniquement, c'était impossible. Enfin, c'était un stress pas possible. Et aussi, ça devenait trop. Quoi. Ça devenait, on n'avait pas besoin de lui. Quoi. Par contre, le chien, on s'est rendu compte vite qu'on avait besoin de lui.
Oui, non, c'est plus comme conseil à des jeunes artistes, on va dire, pour s'adresser par exemple à des... Vous dites que vous êtes hyper entouré, enfin maintenant, et ce qu'il faut d'abord vraiment faire ses preuves et du coup présenter un propos avec des bases solides et en ayant montré ce qu'on est capable de faire, ou alors c'est encore possible de s'adresser sincèrement à des gens en leur disant, voilà, est-ce que ça te dirait de... Je sais pas comment dire.
Pour que des gens viennent travailler avec toi, tu veux dire ?
Pas moi forcément.
Non, enfin, oui. Non, bah ça, en même temps, c'est la vie. Hein. Chacun les rencontres, comment tu fais. Enfin, en fait, c'est ce qu'on a un conseil à donner là-dessus. C'est ça un peu la question. Bah, je pense que c'est, avant tout, c'est être sincère, quoi, non, avec où tu es, non, enfin, par rapport à.
Non, mais la question aussi, c'est que quand on n'a pas de moyens. Comment est-ce qu'on rencontre du monde, quoi. C'est ça un peu ta question, hein, c'est ça.
Ah, si on n'a pas de sous, comment on fait pour rencontrer du monde?
Il faut rencontrer des gens qui n'ont pas beaucoup de sous non plus, et puis se démerder avec eux, c'est à peu près la seule solution.
Oui, ou convaincre ceux qui ont des sous, les convaincre, quoi.
Difficile, ouais, ou convaincre.
Convaincre, de toute façon, c'est être convaincu pour convaincre, c'est ça. Hein. Enfin, ça aussi, on ne l'a pas trop appris à l'école, mais... Si tu veux monter un projet et que tu veux des sous, il faut convaincre pour qu'on te donne des sous pour monter le projet. Enfin, c'est un poisson qui ne se mord pas la queue, quoi. Il file tout droit. Enfin, non, mais et du coup, oui, le fait de... Ben, nous, je crois que c'est une chose qui nous a aidés aussi à repositionner les projets, c'est essayer de parler de ce que tu fais, peut-être finalement à clarifier ce que tu fais. Donc si ça, tu le prends comme un exercice qui t'aide, c'est peut-être plus facile que si tu dis, oulala, il faut que je monte un truc et que j'explique. Enfin, tout dépend comment tu le prends. Plus tu es convaincu, plus tu convaincras.
Mais après, concrètement, quand tu commences et que, enfin nous, comme ça s'est passé, il me semble beaucoup plus simple de commencer à brasser des choses tout seul et sans chercher à finir quelque chose, à pouvoir inviter quelqu'un qui t'intéresse, venir voir, et que du coup, il va, plutôt que venir lui parler de ce que tu fais, de t'y coller, et après, il est plus simple de donner envie à des gens de rentrer dans une matière que tu lui fais sentir, que tu lui fais percevoir. Donc, il est, a priori, ça vaudrait le coup de d'abord essayer des choses sans dire, voilà, on tente ça, on essaye, on va vers... Est-ce que ça te dit deux, et ce sera plus simple de convaincre comme ça.
Mais merci. C'est vrai que les propositions aussi que vous faites aux personnes qui vous ont entouré, elles sont plutôt intéressantes et alléchantes, quoi, sur un plan du travail, quoi. C'est-à-dire aussi bien pour quelqu'un qui prépare tous les petits goutte à goutte que pour le sonorisateur. Enfin, il y a une belle matière. On n'a pas toujours la chance de pouvoir travailler sur des sujets comme ça et avoir cette exigence, quoi. Donc il y a aussi ça, quoi.
Est-ce que de temps en temps vous rencontrez le problème comme quand vous invitez les gens de travailler avec vous, ils vous imposent vos idées, c'est comme pour les réalisateurs, quand ils travaillent avec d'autres gens, c'est eux qui parfois peuvent imposer l'idée de mettre la caméra dans un certain angle, est-ce que ces idées peuvent vous empêcher à à finir, à déterminer votre idée, votre propre idée.
Ben, autrement dit, est-ce que les gens avec qui tu travailles autour, hein, c'est ça, est-ce qu'ils ont imposé des choses qui auraient pu vous limiter, ou c'est un peu ça que tu veux dire, hein, c'est ça. Les gens avec qui tu travailles, un sonorisateur qui non, désolé, parce que j'ai pas envie du tout d'aller dans ce sens-là, on va envoyer des trucs comme ça, à telle fréquence, voilà, hein, c'est, par exemple.
Non, mais ça n'a... Ça n'a
bah, si, des désaccords, il y en a toujours, enfin... tu fais quelque chose, t'es d'accord, t'es pas d'accord, non je suis d'accord, non mais pourquoi t'es d'accord, mais ça, donc oui ça arrive des fois qu'on n'a pas la même vision avec celui qui fait le son ou celui qui fait le machin ou celui qui sont à l'extérieur qui te dit ça, mais toi t'y ressens pas du tout la même chose, puis t'essayes de comprendre, enfin on a je crois la chance d'avoir travaillé avec une équipe qui justement tout le monde va dans le même sens, pas pour être enfin, pour être d'accord, finalement, quoi. Pas, on n'est pas d'accord sur tout le temps, mais on se met d'accord sur tout le temps. Enfin...
Mais après, il y a aussi des choses claires et nettes dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il faut choisir, bah, nous choisirons. Donc, la communication, elle est nécessaire. Mais si à un moment donné, on arrive à un endroit où, bah, du coup, il y a des choix, puis c'est tout.
Bah, du coup, pour revenir à la production de votre création, ça s'est passé comment ? Enfin, les financements, parce que je suppose que ça a eu quand même un coût assez important. Du coup, voilà.
Finance. Comment ça se passe ? Bah, nous. Ah, on a été aidé par ce projet. Là, je vais peut-être oublier. Non, je vais pas oublier. Je vais me faire rattraper. Mais on a été en tout cas travailler au Pronomade d'Haute-Garonne, c'est le Centre National des Arts de la Rue, qui on est compagnie complice avec eux et ils ont compris le projet. Et on a été répété là-bas plusieurs fois. On a été au Petit Quevilly, on a été au Mercat de las Flores à Barcelone, on a été à l'Animal a la Esquena, que c'est le centre de création de la compagnie Malpelo. Je crois que comme endroit. C'est tout, et après on a monté une production avec des coproducteurs, et les coproducteurs c'est à peu près les mêmes avec Axe, avec Graz aussi, le festival d'Autriche, le Pôle Cirque-Sen, c'est un peu les gens qui nous avaient accueillis sur d'autres projets avant, qu'ils avaient aimé, et puis qui nous ont aidés. Nous ont fait confiance sur ce projet quand on a été les voir et les rencontrer, nos envies, quoi.
J'espère que tu n'as oublié personne parce que c'est enregistré, ça va passer à la radio et sur Internet. Hein.
Temporada alta.
Ah, voilà. Bon, bah, je pense qu'on va en rester là, c'est bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour... aux deux compagnies d'être venues. Merci à Roman, merci Camille, merci Baye.
Merci Christian pour avoir animé ces rencontres ce soir encore avec la compagnie Barreau des Velles et la compagnie Trespass.